Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, la nouvelle est sortie. La Ville de Montréal qui va mettre sur pied une recherche quantitative sur le harcèlement de rue. Ça va se faire avec une équipe de l'Université du Québec à Montréal. La ville va mettre 50 000. Le secrétariat à la condition féminine va rajouter 60 000 $ de plus. Comment ça va se faire? Comment on fait pour mesurer ça, le harcèlement de rue? Va-t-il y avoir comme des inspecteurs à différents coins de rue, dans différents quartiers à Montréal, qui vont observer? Oh mon Dieu, il y a un ouvrier de la construction, il a sifflé la femme qui vient de passer dans la rue. Je prends mon petit carnet, je coche. Le mercredi à midi, une femme s'est fait harceler dans la rue. Je veux dire, je veux pas banaliser ce phénomène-là, mais il me semble que quand t'es à la tête de la ville de Montréal, il y a des problèmes un tout petit peu plus graves que ça. Quand j'ai vu ça ce matin dans mon journal, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il y a une section du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est toujours intéressante à lire. C'est la section « Faites la différence » où des citoyens de tous les milieux peuvent écrire et exprimer haut et fort leur opinion. Et ce matin, il y a une lettre qui est venue vraiment me chercher qui s'intitule « L'éducation, une priorité du gouvernement, vraiment ». On va parler à une des nombreuses signataires de la lettre parce qu'elles se sont mises à plusieurs pour écrire cette lettre. Natacha Beausoleil, qui est orthophoniste en milieu scolaire. Madame Beausoleil, bonjour.
Bonjour.
J'avoue que je trouve votre lettre avec un titre assez accrocheur. Essentiellement, vous vous adressez à M. Legault, le premier ministre, en essayant de comprendre comment ça se fait qu'il y a une telle disparité entre les professeurs et les professionnels du réseau scolaire.
En effet, on a l'impression que pour M. Legault, l'éducation, il dit que c'est sa priorité, hein, on l'a entendu.
Oui, souvent.
Dans son discours d'ouverture en 2018, il l'a redit en 2019 que c'était la priorité numéro un, hein, de la CAQ. Mais c'est comme si l'éducation ne passait que par les enseignants. Bien sûr, nos collègues enseignants font une job merveilleuse dans l'enseignement, mais l'éducation ne passe pas que par les enseignants. Le soutien que peuvent offrir les professionnels est majeur. En fait, il est majeur. Et on dirait qu'il y a une non-reconnaissance de ça. Et là, on se questionne à savoir, est-ce que le gouvernement, est-ce que le premier ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation savent ce que font les professionnels en milieu scolaire? À quel point ils contribuent aux apprentissages, à la socialisation et à la diplomation de nos élèves?
Alors, ben, écoutez, je pense qu'on c'est peut-être légitime de votre part, c'est sûrement légitime de votre part de se poser la question en ce qui a trait à notre premier ministre. Monsieur Roberge a quand même écrit tout un livre sur l'éducation. Il est lui-même très proche de ce milieu-là, donc je pense qu'il est conscient. Mais pour le bénéfice de tous nos auditeurs, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez d'abord les professionnels. Quand on dit les professionnels de l'éducation, on parle des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des conseiller en orientation. Qu'est-ce que ça mange en hiver et qu'est-ce que ça fait dans une école? Pour quelqu'un qui, mettons, je sais pas, quelqu'un qui a pas d'enfants à l'école ou alors encore quelqu'un qui a des enfants à l'école mais qui n'ont jamais eu recours à ces services-là.
D'accord. Donc, les professionnels du milieu de l'éducation ont fait partie de ce qu'on appelle les services éducatifs complémentaires. C'est quelque chose là, qui est reconnu au niveau ministériel, donc service éducatif, donc on semble reconnaître qu'on a une valeur dans l'éducation.
Absolument.
Complémentaire qui travaille avec, qui est essentielle. Et donc, notre rôle est de comprendre les défis qui sont rencontrés par les élèves avec une autre lunette, d'analyser et de résoudre les problèmes d'apprentissage, de motivation, d'engagement mais aussi les problèmes d'enseignement. C'est dans une dynamique enseignement-apprentissage que les problèmes se manifestent. Et donc, les professionnels du réseau de l'éducation ont une formation, une démarche qui les amène à analyser les situations difficiles et d'aller au-delà des manifestations visibles pour essayer de voir, à partir de leur expertise, qu'est-ce qui peut être fait, d'identifier les entraves aux apprentissages, à la socialisation, d'identifier les facteurs de protection, les interventions judicieuses et qui dit professionnel dit membre d'un ordre, dit formation continue, se tenir à la fine pointe, connaître les pratiques les plus efficaces. Donc, on essaie de proposer des interventions spécifiques et judicieuses. On va hiérarchiser ce qu'il y a à faire et on va surtout réguler qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de s'ajuster. Et donc, on permet à plus d'élèves de réussir. Souvent, quand on fait l'appel à nous, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas.
Absolument.
Alors, quand on dit qu'on souhaite la réussite de plus d'élèves, bien, ceux que ça va bien, ça va bien. C'est ceux que ça va pas bien qui ont besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que les professionnels sont interpellés. Je peux vous parler de l'orthophonie scolaire. Donc, moi, je suis là pour soutenir.
C'est votre spécialité. Voilà.
Voilà. Et apprendre, c'est comprendre. Et c'est comprendre dans toutes les disciplines.
C'est bien dit, oui.
Quand un élève ne comprend pas, c'est pas juste en français qu'il comprend pas, c'est en histoire, c'est en mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'apprentissage accessible? On le sait, les orthophonistes, ce qui peut être fait. On peut soutenir nos collègues. On fait du beau travail de collaboration avec eux, du co-développement. Et on fait une différence dans les apprentissages de tous les jours. Moi, je suis pas cantonnée dans mon bureau. Je vois pas des élèves. Dans mon bureau, je les sors de classe. Je travaille avec les enseignants. Je vais en classe. Et on a des objets d'apprentissage qui vont avec le programme. Et je peux dire que depuis que je travaille avec certaines clientèles, certaines équipes, il y a eu des impacts sur les parcours possibles pour les élèves. Donc, pas moi toute seule, en collaboration.
Bien sûr,
avec mes collègues.
Mais il y a vraiment un impact concret. C'est-à-dire que quand il y a une intervention d'un des professionnels de l'éducation, que ce soit vous, les orthophonistes, que ce soit les psychoéducateurs, il y a un résultat concret. On voit là vraiment action-réaction. Donc, vous nous avez très bien mis tout ça en contexte, Madame Beausoleil. Maintenant, on comprend dans votre lettre qu'il y a tout ça se fait dans un contexte de négociation avec le gouvernement. Vous rappelez dans votre lettre que les enseignants, eux, se sont fait offrir 11,3%, soyons précis, sur 3 ans, alors que les professionnels, elles, se sont fait offrir une augmentation de 6% sur 3 ans. Et quand on compare la tâche de travail, elle n'est pas la même et pourtant, la rémunération est moindre.
Voilà, tout à fait. En fait, il y a différentes choses. Et soit dit en passant, on est très content de ce qu'ont obtenu nos collègues enseignants. On pense que ce qu'ils font en vaut la peine. Mais comme la lettre le dit, auparavant, on avait des échelons salariaux qui se ressemblaient. Or, maintenant, on va avoir une grande disparité. Oui, au niveau du salaire, mais il faut savoir que les professionnels, pour la plupart, en termes de formation, on a une formation plus longue. Par exemple, orthophoniste, psychoéducateur, ça demande une maîtrise. Je peux pas pratiquer sans ma maîtrise. J'en ai besoin. Psychologue, c'est un doctorat. Il y a une différence au niveau des obligations légales. Je parlais tantôt qu'on était tenu de faire partie d'un ordre. On peut avoir des inspections professionnelles. On est imputable au niveau légal. On est obligé de se former. On a de la formation continue obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire pour les enseignants. On a également plus d'heures qu'on travaille par année. On n'a pas le congé d'été des enseignants. On travaille on travaille 30 jours de plus par année et en plus, nos semaines sont plus garnies. On a 35 heures au lieu de 32. Et tout le monde fait du temps supplémentaire. Là.
Donc,
les enfants, mais les orthophonistes aussi, les
aussi.
Professionnels.
Oui. Ben, écoutez, moi, je connais bien le métier d'orthophoniste, d'orthopédagogue. Ma cousine Evelyne Perra a été à l'ordre des orthophonistes pendant plusieurs années comme syndic. Je ne sais même pas si peut-être que vous l'avez même connue.
Le nom. Je connais le nom.
Vous connaissez le nom. Voilà. Elle est décédée aujourd'hui. Mais donc, c'est une réalité que je connais bien. Mais que le grand public peut-être ne connaît pas en effet suffisamment. Ce qu'on comprend dans votre lettre, c'est qu'au-delà de la reconnaissance financière qui est bien sûr pas inintéressante et qui est pas anodine. Il y a la question de la reconnaissance de l'importance et de l'implication que vous avez quand vous nous parlez par exemple de la diplomation que ça prend pour faire votre métier. Un enseignant par exemple a pas besoin d'avoir une maîtrise ou d'avoir un doctorat. Donc vous souhaitez simplement qu'on reconnaisse l'importance de vos métiers au-delà des sous même.
Au-delà des sous, reconnaître ce que ça prend pour faire ça, mais reconnaître notre travail dans le milieu. Être orthophoniste scolaire, c'est pas être orthophoniste, c'est orthophoniste scolaire. Il y a cette particularité-là qui fait qu'on est vraiment en phase avec ce qui se fait. Je peux pas être orthophoniste scolaire sans connaître le programme de formation. Je peux pas être orthophoniste scolaire sans savoir ce que mes collègues enseignants font en classe, sans faire du travail avec eux. On est vraiment dans une constante collaboration et là, on a l'impression que cette reconnaissance-là, cette connaissance, hein, vous disiez tantôt que M. Robert, je dois connaître, je suis pas certaine qu'il connaisse ce que ça fait une orthophoniste scolaire. Hein, on a une conception de l'orthophoniste souvent très médicale. Or, c'est pas ça dans le milieu scolaire. On a vraiment un impact sur l'éducation, sur les apprentissages et sur la diplomation.
Mais
donc c'est cette reconnaissance-là qu'on cherche.
Je comprends fort bien. J'argumenterai pas avec vous au sujet de Jean-François Robert. Je n'ai pas lu son livre, donc je dois admettre que. Mais peut-être que dans son livre, il parle justement du rôle des orthophonistes scolaires. Ce serait à vérifier. Mais revenons à ces demandes en fait que vous faites quand vous parlez de cette différence dans la rémunération d'un plus grand nombre de journées travaillées. Quelle oreille vous avez justement au gouvernement quand vous présentez ces arguments-là? Est-ce que c'est tout simplement une fin de non-recevoir ou est-ce que à ce moment-là, du côté du gouvernement, on vous dit simplement la capacité de payer puis on peut pas offrir à tout le monde les mêmes augmentations sur 3 ans?
Ben, on n'a pas une grande écoute présentement.
Non.
On est 10 000, nous, par rapport à 73 000 enseignants, 34 000.
Il y a 10 000 professionnels de l'éducation, c'est énorme.
Oui, mais c'est beaucoup moins que le nombre d'enseignants. Donc, je sais pas, à ce niveau-là, on n'a pas l'impression d'avoir une grande oreille. Mais oui, on nous ramène l'argument de la capacité à payer des Québécois. Mais moi, je questionne cet argument-là. Ce qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose avec les professionnels qui vont permettre vraiment aux élèves de mieux apprendre et de mieux réussir. C'est pour l'ensemble des élèves du Québec, c'est pour leur futur. Quand on nous dit qu'on ne trouve pas d'argent pour les 10 000 professionnels du Québec, mais qu'on a de l'argent pour un troisième lien à Québec, c'est questionnable. Elle est où la priorité? Si on dit que la priorité numéro un, ce sont nos enfants, c'est leur éducation, ben il va falloir que les actions suivent les paroles.
Oui.
Et là, présentement, ce n'est pas le cas.
On
peine à recruter et à retenir des professionnels. Il n'y a pas de pénurie de professionnels. Faut se le dire, on entend souvent, oui, mais il n'y a pas d'orthophonistes. Non. Des orthophonistes, on en a suffisamment au Québec présentement pour les besoins. Elles ne viennent pas dans le milieu scolaire.
Elles préfèrent travailler au privé.
Vers la santé parce que les conditions, oui, salariales sont meilleures, mais les conditions de travail, il n'y a pas de plancher dans le milieu scolaire pour le nombre d'orthophonistes. Et les autres professionnels aussi. Or, on a des données de prévalence. Des élèves qui ont un trouble développemental du langage, on parle de 7 à 12 % des élèves qui ont d'autres troubles, troubles du spectre de... On connaît les pratiques qui vont les aider et on sait quels professionnels pourraient soutenir. Or, on n'a pas de plancher, ce qui fait que d'un milieu à l'autre, le nombre de professionnels engagés varie et on a des collègues. L'année dernière, moi, j'avais une collègue orthophoniste au secondaire qui, en 4 jours, couvrait 3 écoles.
Ben voyons donc.
C'est difficile de collaborer et concerter avec les équipes en place quand on a très peu de temps comme ça. Donc, elles ne viennent pas dans le réseau scolaire. On peut faire une différence, mais si on ne réussit pas à les recruter et à les retenir, oui, par des mesures salariales, mais aussi par les conditions de travail.
Je comprends.
C'est beau de dire qu'on crée des postes, mais le service n'est pas là.
Ben oui, parce que les gens ne sont pas intéressés à les combler, ces postes-là, surtout si les conditions sont plus intéressantes, que ce soit au privé ou dans la santé. Les gens qui nous écoutent auront sûrement remarqué que, depuis le début, vous utilisez le féminin, parce que une profession, ce sont des professions majoritairement féminines. Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? C'est quoi? C'est à 90 % féminin, à 75 % féminin? C'est quoi les statistiques?
J'ai pas le chiffre, je suis désolée, mais en effet, là, dans le réseau de l'éducation, mais dans la profession de l'orthophonie, c'est en très, très grande majorité là, des femmes qui sont là.
Excusez-moi de poser la question, mais est-ce que ça peut être un des éléments qui fait que vous êtes peut-être moins prise au sérieux?
Ben, je ne saurais pas répondre par rapport à ça, mais je sais que dans le milieu de l'éducation, les enseignants, il y a aussi beaucoup de femmes. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient jouer, mais de savoir qu'en général, dans la population, les femmes sont moins bien payées, moins bien reconnues, vient jouer à quelque part.
Mais en même temps, si on regarde le milieu de la santé, surtout quand je lis ce matin dans mon journal préféré, Journal de Montréal, Journal de Québec, des primes à l'oxygène de millions de dollars payées aux médecins, les médecins en ce moment, en tout cas ceux qui sortent des facultés de médecine, c'est très majoritairement des femmes. Donc, peut-être que ça sert à équilibrer. Une des choses aussi dont il est important de parler, c'est les besoins sur le terrain. L'impact de la pandémie sur les besoins, justement, des professionnels en éducation. Est-ce que vous avez été capable de répondre à la demande? Est-ce que le fait que, justement, beaucoup de l'éducation cette année s'est faite à distance, quand on est orthopédagogue en milieu scolaire, comment on fait pour rejoindre les jeunes pendant une année de pandémie?
Bon, moi, je suis orthophoniste, pas orthopédagogue.
Pardon, oui, excusez-moi. Orthophoniste en milieu scolaire, oui.
Voilà. Mais moi, je travaille principalement avec des élèves qui ont un trouble développemental du langage. Et donc, on était en classe la plupart du temps. Mais vous avez raison que quand on a été à distance, c'était un très grand défi. Et donc, avec mon équipe cette année, ce qu'on a fait en début d'année, c'est vraiment se préparer. Donc, on avait une collègue qui est orthophoniste conseil, moi-même et les enseignants à la direction. Et on s'est attelé à se demander qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour essayer de soutenir les élèves. Mais je peux pas vous dire que les apprentissages ont été les mêmes. On sait qu'à distance, ça se fait moins bien en général, mais pour des élèves en trouble d'apprentissage, c'est encore plus difficile. Donc, oui, ça a été difficile pour les professionnels d'intervenir. Pour ceux qui étaient complètement à distance, encore plus, le lien avec... Parce que nous, notre moteur, c'est de voir la dynamique enseignement-apprentissage. Donc, quand on a accès seulement à des élèves à distance ou en un à un, on perd tout ça, toute cette information-là. C'est très difficile à ce niveau-là. Donc, la pandémie, c'est certain que ça a eu un impact. Ça a eu un impact chez les élèves. Ça fait en sorte que les apprentissages se sont moins bien faits. Et on avait un trou l'année dernière avec le 4 à 5 mois de non-scolarisation, de très peu de scolarisation. Bien, ça faisait qu'on partait avec un sac à dos encore moins rempli en début d'année.
L'image du sac à dos est très bonne. Natacha Beausoleil, donc, vous êtes orthophoniste en milieu scolaire et vous êtes une des 150 personnes qui ont signé cette lettre qui s'intitule « L'éducation, une priorité du gouvernement vraiment » avec un gros, 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 gros point d'interrogation. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre réalité aujourd'hui et de vos requêtes, de vos demandes face au gouvernement.
Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a en ce moment à Québec l'étude d'un projet de loi, le projet de loi 219, qui vise le réaménagement d'une partie de l'ancien hôpital Royal Victoria. Vous savez, cet hôpital au pied là, du Mont-Royal, où McGill veut en faire un pôle d'innovation en développement durable. Du côté du PQ, du Parti québécois, ça ne passe tout simplement pas, parce qu'on dit que c'est faire une fleur, un cadeau énorme à l'Université McGill et que c'est injuste envers les universités francophones, que ce soit l'Université de Montréal ou l'UQAM. J'avais très envie d'avoir l'opinion de Jean-François Lisée là-dessus, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, journaliste, auteur. Ben, ça tombe bien, il est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François.
Ben, quelle heureuse coïncidence, Sophie.
Jean-François, hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit sur Twitter, même si je suis un ancien de McGill, je suis absolument en désaccord avec ce projet. Est-ce que toi, tu es un ancien de McGill aussi?
Non, je suis un ancien de l'UQAM.
Bon, ben moi, je suis une ancienne de McGill, donc on va pouvoir dialoguer à armes
égales. On va débattre.
Non, parce que, je sais pas, toi, tu penses que c'est un bon projet?
Non.
Non, d'accord. Alors, explique-moi pourquoi.
Bon, les épisodes précédents sont ceux-ci. L'hôpital Royal Victoria n'est plus utilisé parce que ses services sont allés au CUSUM, au nouveau centre hospitalier anglophone. Et donc, l'hôpital est à peu près vide. On s'en sert pour différents projets mineurs en attendant de lui trouver une nouvelle vocation. Moi, ça tombe bien parce que lorsque j'étais ministre de la Métropole en 2012, ce dossier est tombé sur mon bureau et on s'est rendu compte que à la fois celui-là et les autres anciens hôpitaux qui ont été évacués pour faire le CHUM, les libéraux n'avaient rien prévu pour leur utilisation future. Puis ça coûte cher d'avoir des gros immeubles vides comme ça.
Bien sûr.
Et donc, j'avais demandé à Claude Corbeau de faire une commission et une consultation pour voir comment on pouvait disposer de ces mastodontes-là. Et il y a un certain nombre de propositions qui avaient été faites pour disposer de ça correctement, puis faire des appels de propositions. Et pour d'autres immeubles, on voyait bien qu'il y aurait de l'intérêt immobilier pour certains immeubles, mais pour le Royal Vic, il y avait des idées. Et moi, mon idée, évidemment, j'étais très fixé sur le fait qu'il fallait plus de logements pour les familles à Montréal et que si on pouvait transformer l'hôpital ou ses installations dans des logements abordables, ce serait une bonne chose. Mais il n'y a jamais personne qui a levé la main, c'est-à-dire société immobilière, société d'habitation, municipalité ou quoi que ce soit, pour dire ben ce serait intéressant. Ben, évidemment, tout le monde dit si vous nous donnez $1 milliard, on peut transformer ça en ce que vous voulez.
Ouais.
Ça peut être des habitations, ça peut être le Disneyland de Montréal. Mais si vous ne nous donnez pas l'argent, il n'y a rien à faire parce que c'est très, très cher à reconditionner. Et les seuls qui ont levé la main, c'est McGill. Alors, je les comprends que McGill lève la main puis dise, bon, ben, dans des conditions acceptables, on est prêt à investir si l'État investit des centaines de millions avec nous pour faire un agrandissement de McGill. Alors moi, j'ai perdu mon poste de ministre à ce moment-là parce qu'on a eu la mauvaise idée de tenir une élection et c'est tombé dans l'escarcelle des libéraux qui ont dit, ben nous, on est d'accord pour donner ça à McGill. Donner ça et financer McGill, parce que c'est ça.
C'est un double cadeau, c'est ça.
C'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne se passera rien là si l'État ne finance pas. Et là, ça renvoie à l'État devrait dire, OK, bon, puisqu'on va financer de toute façon, posons-nous la question de ce qu'on veut mettre là. Et cette question-là, ni les libéraux, ni la CAQ ne veut se la poser. Parce qu'ils ont juste une réponse, c'est, ben, puisque McGill est prêt à un projet, on va donner une partie de l'espace. C'est pas la totalité, hein. Il reste beaucoup d'espace qui peuvent être utilisés à d'autres fins.
Oui, ben c'est immense.
Consultation publique.
C'est immense, hein. C'est parce que c'est toutes des petites, pas des petites, en fait, des grandes bâtisses. Moi, chaque fois que je passe devant, j'ai vécu pendant un petit moment juste à côté, puis De toute façon, c'est l'université à laquelle je suis allée, l'université McGill, qui est juste à côté. Je trouve que ça ressemble à Poudlard. On a l'impression tu trouves pas? C'est comme il y a un côté château-manoir un peu... c'est un peu Poudlard, un peu école britannique, un peu Oxford, un peu... c'est assez particulier.
Alors, ce que ça donne, c'est que, évidemment, la question... Je trouve que McGill joue bien son jeu là-dedans. Il y a une proximité, il y a un projet, bon. Mais c'est sûr que de céder la partie qu'ils veulent, c'est céder quelque chose qui a une valeur d'un milliard, que personne veut acheter, mais qui a une valeur d'un milliard, et c'est faire en sorte d'accroître un avantage systémique majeur qu'a McGill depuis sa création. Évidemment, ça a été créé sous le régime anglais, c'était la première université, c'est là où la richesse canadienne, parce que Montréal, c'était les riches Canadiens étaient à Montréal, qui a été accumulé autour de McGill, et ensuite les riches diplômés n'ont pas arrêté de financer McGill. Mais en plus de ça, lorsqu'on fait des calculs, comme Frédéric Lacroix en a fait dans l'autre journal plus tôt cette année, on s'aperçoit que le financement par étudiant de McGill, le financement public québécois, est supérieur
absolument
à la moyenne des universités francophones. C'est-à-dire, en ce moment, c'est pas seulement la richesse accumulée par les diplômés de McGill, on continue à surfinancer McGill par rapport aux autres universités, ce qui est inacceptable. Je veux dire, on comprend pas pourquoi on fait ça. Puis en plus, cette donation-là donnerait à McGill une longueur d'avance extraordinaire sur les autres universités. Et c'est cette question de fond-là le gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, refuse de poser.
Oui, ça devient quand même problématique. Puis bon, il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont à l'extérieur de Montréal et peut-être qui se disent, bon, ben pourquoi Sophie et Jean-François passent autant à parler de ça? Mais c'est parce que ça a un impact sur le visage même de la province. C'est que la raison pour laquelle on y accorde autant d'importance, c'est que moi, si j'étais à la tête de l'UQAM, si j'étais à la tête de l'Université de Montréal, je regarderais, c'est comme un parent qui donne beaucoup plus d'argent à un de ses enfants, bien c'est sûr que ça va créer de la jalousie ou un dépit ou une frustration de la part des autres enfants. C'est cette espèce de démesure. Mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est quand on passe notre temps à parler du visage francophone de Montréal, bien je veux dire, il y a sûrement des gens ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés faire un petit tour à McGill, parce que tout ce qu'il y a autour, les commerces et tout ça, c'est toute pour servir cette clientèle anglophone, il y a plein de commerces qui font juste parler en anglais. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'angliciser le centre-ville par McGill. Et si en plus on donne ça à McGill, McGill va prendre encore plus d'expansion. Et c'est ce que déplore Pascal Bérubé, parce qu'il dit on est en train de recréer un autre Golden Square Mile, qui est cette espèce de quartier... De riches commerçants qu'il y avait tout autour de l'Université McGill, ben on va l'agrandir, le Golden Square Mile. Je m'excuse, c'est une longue intervention en plein milieu de ta chronique, Jean-François.
Ben oui, mais c'est
important de refaire cette mise en contexte-là. C'est pas juste, on parle pas juste de briques et de mortier, là. Il y a vraiment un réel impact sur toutes sortes de choses qui ont des conséquences pour l'ensemble du Québec.
Tout à fait. Alors donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de remettre ce dossier-là à plat et dire, bon, d'accord, il y a une proposition de McGill qui vient structurer. Maintenant, est-ce qu'on peut en susciter d'autres? C'est un patrimoine montréalais majeur. C'est sur notre montagne qu'on adore. Est-ce qu'il y a un autre projet montréalais qu'on peut développer? Québec solidaire, eux, sont comme moi. Ils veulent avoir des logements familiaux là-dedans. Ben, très bien. C'est sûr que ça se fera pas par le privé à profit sans une intervention de l'État. Alors, c'est sûr qu'on va casquer si on veut transformer le Royal Vic en quelque chose d'autre. Il doit y avoir une consultation publique à Montréal cette année ou l'an prochain, peu importe ce qui se passe, pour voir ce qui est là. Alors, donc, le problème, c'est que le gouvernement a déjà accepté le principe que ce serait McGill. Il faut qu'il retire cette acceptation. Si ça se fait dans 10 ans, ça va finir par se faire. Est-ce que les universités du Québec voudraient faire un projet commun francophone sur le développement durable à Royal-Vie, c'est une autre possibilité.
Bien sûr.
Tu sais, il faut ouvrir la perspective en se disant, on peut pas manquer notre coup. Et un certain nombre d'entre nous pensons que ben, McGill a déjà été tellement favorisé dans le passé que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer dans ce sens-là. Puis il faudrait, comme tu dis, insuffler plus de Français dans ce quartier-là, un quartier historique important. Et ce n'est pas en acceptant la proposition de McGill qu'on va le faire. Ce qui est très surprenant, alors hier, le premier ministre, la ministre de la culture, on fait une grande annonce sur les espaces bleus.
Oui, là, oui, oui.
Ils vont réutiliser le patrimoine dans chacune des 17 régions du Québec pour faire des musées interactifs, etc.
On leur a posé la question de savoir si le Royal Vic faisait partie de ça.
Exact. Alors, la réponse de la CAQ, c'est non. Mais la transaction de la CAQ pour céder le Royal Vic à McGill est plus importante que la totalité des sommes de la totalité des espaces bleus.
Alors, c'est excellent. Tu es le premier à faire ce parallèle-là. C'est excellent, Jean-François, tout à fait. Parce que là, tout le monde se pète les bretelles ce matin avec les espaces bleus puis qui justement vont être installés dans des lieux patrimoniaux qui vont être adaptés, qui vont être revalorisés, je pense que c'est le mot qu'on utilise. Mais donc, tu as tout à fait raison quand on met toutes les sommes allouées à ça. C'est même pas la même chose que, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui va être alloué pour Royal Victoria. Écoute, je veux juste revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure quand je disais, je faisais la comparaison entre papa, maman qui donnent des cadeaux à leurs enfants puis ils donnent plus de cadeaux à un enfant qu'à d'autres. J'ai mentionné l'Université de Montréal et l'UQAM. J'aurais dû bien sûr mentionner aussi l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et bon, d'autres institutions d'enseignement supérieur. Mais il reste que c'est quand même assez ironique en plus. Là, on s'éloigne un tout petit peu. Enfin, on prend un petit pas de recul par rapport à tout ça, mais tu sais, on entend tellement souvent, et on l'a entendu particulièrement au cours des dernières semaines, des derniers mois, la minorité anglophone se plaindre, c'est donc ben effrayant, la refonte de la loi 101, puis là, tu sais, on va manquer d'oxygène, puis à CJD, tu les entends crier, puis dans la Gazette et tout. Mais c'est drôle, hein, ils parlent pas beaucoup de ce milliard-là pour l'Université McGill avec Royal Victoria. Hein, j'ai pas entendu beaucoup les ténors, j'ai pas entendu beaucoup Mitch Garber dire « c'est donc ben effrayant, on va donner le Royal Vic à McGill ». C'est bizarre, hein?
Ben, c'est parce que, aussi, le Royal Vic est considéré comme un patrimoine anglophone de Montréal.
Oui, parce que c'est un hôpital anglophone, mais ça veut pas dire... C'est pas parce qu'on y parlait anglais entre les murs, la brique et le mortier n'ont pas de langue, hein? J'aimerais le rappeler à tout le monde. Oui.
Mais dans leur logique, c'est des institutions qu'ils ont fondées, ça c'est vrai, qu'ils ont financées, ben, en partie, parce que il y a un moment où l'essentiel du financement de l'hôpital Victoria...
Ben, c'était le gouvernement.
C'était le gouvernement du Québec, donc 8% sur un dollar, il y avait 8 sous qui venaient de la communauté francophone et 92 sous de la communauté 8 sous des anglophones et 92 des francophones. Mais ça, c'est très difficile à faire comprendre à un député libéral anglophone. Très, très, très difficile. Parce qu'il considère, ben, ça, de toute façon, ça s'appelle Victoria. Alors, Victoria, c'est Britannique, c'est nous. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal.
Oui, mais la députée qui a déposé ce projet de loi-là, qui est un projet de loi privé, c'est Jennifer Macaroni. Et donc, elle est plus d'ascendance italienne que d'ascendance britannique. Mais on comprend l'idée de ce que tu veux dire, Jean-François. Oui,
c'est l'Empire britannique au sens large, incluant l'Italie.
Alors, l'Italie est dans l'Empire britannique maintenant.
Ne vérifiez pas dans vos livres d'histoire.
Tu es en train de refaire la map monde, en train de refaire la carte du Nord. Mais on comprend très bien, en effet, l'idée que ça fait partie d'une sorte de patrimoine fictif ou enfin d'un patrimoine pas concret, là. On comprend que dans l'œil de la communauté anglophone, ce sont eux qui se le sont appropriés. Donc, il est normal que ça reste entre leurs mains. Mais l'argument inverse peut se faire. À partir du moment où on vit dans une province francophone, il est normal qu'on favorise la majorité et que je suis convaincue qu'il y a des besoins absolument énormes, autant à l'UQAM qu'à l'Université de Montréal, qu'à l'Université Laval, qu'à l'Université de Sherbrooke. Tous ces gens-là ont besoin et se plaignent justement régulièrement de sous-financement de l'enseignement supérieur. Puis tout le monde aimerait bien avoir des beaux petits instituts de recherche, surtout dans un lieu aussi idyllique que le Mont-Royal, juste en haut là de Dr. Penfield et tout ce coin-là est absolument splendide. Hein? C'est parmi les arbres, c'est idyllique là.
Appuyer sur la montagne, absolument.
On parle beaucoup de chiffres et tout ça, mais revenons simplement à la beauté de la chose. Je veux dire, il s'est construit tellement d'affaires laides à Montréal et partout au Québec. Est-ce qu'on peut au moins, quand il y a des choses qui ont été bâties, des bâtiments qui sont absolument splendides, est-ce qu'on peut au moins se les approprier?
Alors, tu sais qu'à Londres, il y a une... un genre d'attraction où ils refont des scènes de Poudlard et des rues de Londres dans Harry Potter. On pourrait très bien nous, on peut prendre une partie, juste une partie de l'hôpital Victoria pour refaire Poudlard. Je suis sûr qu'il y aurait énormément de touristes qui viendraient vivre cette expérience-là, Harry Potter à Montréal, en français.
Par contre, il y a des choses sombres aussi qui font partie de l'histoire du Royal Victoria, dont, par exemple, les expériences j'oublie le nom
Edwin Cameron.
Oui, c'est ça. Merci du docteur Cameron. J'avais fait quelques reportages là-dessus dans le temps où je travaillais à Radio-Canada. Et oui, à une certaine époque, je travaillais à Radio-Canada. Et donc, c'est absolument terrible. Il y a des gens qui ont subi des électrochocs, etc. Et c'était des expériences financées par la CIA. C'est vraiment une histoire assez particulière, très sombre, donc qui s'est déroulée aussi au Royal Victoria. Jean-François, merci beaucoup d'avoir réfléchi à voix haute avec nous à ce sujet-là. On a bien hâte de voir quelle sera la suite des choses. Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois et chroniqueur politique. Toujours un plaisir de te parler, puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Sophie.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Hier, c'est une journée très importante pour les gens qui s'intéressent au dossier de l'aide médicale à mourir, une décision importante prise par le gouvernement québécois et les partis d'opposition. On va parler de tout ça avec Dr. Alain Nau, qui est médecin de famille, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et qui est ma référence quand j'ai besoin de parler de personnes en fin de vie. Surtout qu'il fait partie des gens qui avaient justement déposé un mémoire quand collectivement on s'est penché sur ces questions-là. Dr. Nau, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
J'aime ça vous parler, Dr. Nau, parce que vous êtes un excellent pédagogue. Vous nous simplifiez les choses, vous nous expliquez. Alors, je vais vous demander de jouer le rôle de professeur Nau au lieu de Dr. Nau et de nous expliquer qu'est-ce qui a été décidé hier et l'impact que ça va avoir pour les gens qui veulent l'aide médicale à mourir.
Alors, merci de l'invitation, Mme Durocher. C'est un plaisir partagé là de vous parler aussi. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi québécoise a été adoptée en juin 2014. Ça fait maintenant 7 ans, mais elle n'a jamais été modifiée, elle n'a jamais été revue à la lumière de l'évolution de la société et du droit et des jugements qui ont été rendus depuis. Il y avait un article de cette loi-là qui exigeait que le patient qui reçoit l'aide médicale à mourir renouvelle son consentement là tout juste avant de débuter l'administration. Autrement dit, il fallait avoir toute sa tête jusqu'au moment où on débutait la procédure d'aide médicale à mourir. Et ça, dès janvier 2016, dès le tout début, on a vu des situations d'indignité reliées à cette exigence-là. Des malades qui étaient vraiment là en soins palliatifs, avec un pronostic là, de quelques semaines, quelques jours, qui attendaient le moment de l'aide médicale à mourir, mais qui devançaient ce moment-là parce qu'ils voulaient être certains de ne pas manquer leur coup, ils voulaient être certains de conserver toute leur tête. On a vu des malades cesser leurs médicaments, leurs narcotiques, leurs analgésiques, leurs médicaments pour dormir dans les jours précédents, pour justement conserver leur pleine capacité. Et c'était certainement pas l'intention du législateur de dire, bon, on va faire souffrir les gens dans leurs derniers jours de vie, là, mais c'est les conséquences qu'on voyait.
Oui. Et on c'est ce qu'on appelle aussi un effet pervers. C'est qu'en fait, même si c'était pas ça l'intention, la loi fait en sorte que ça, au lieu que ce soit bénéfique pour le patient, ben, ça lui causait un tort, en effet.
Absolument. Et on a vu de très nombreux patients qui, au moment convenu de l'aide médicale à mourir, n'avaient plus justement toute leur tête et ne pouvaient plus recevoir l'aide médicale à mourir et qu'on devait regarder là, mourir lentement à petit feu là, dans un coma, une agonie terminale qu'ils voulaient justement s'éviter en demandant l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'était un effet pervers de la loi, comme vous le dites bien. Et le gouvernement fédéral, dans sa récente modification du code criminel, mm-hmm. ce qu'on appelle la loi C-7, adoptée le 17 mars dernier, avait répondu à cette injustice-là et avait corrigé cette loi-là en permettant aux gens pour qui il y avait un moment qui avait été fixé de l'aide médicale à mourir de renoncer par écrit, par une entente avec son médecin, à cette obligation-là d'être apte au moment de l'administration. Mais le problème, c'est que la loi québécoise l'interdisait toujours. Alors, il y a eu des pressions. Évidemment, ça a été dénoncé par tous les médecins qui, évidemment, observaient ça depuis 5 ans, ces situations d'indignité. Et le Collège des médecins du Québec a pris position publiquement en disant, ben, écoutez, il est inconcevable qu'on prive les Québécois de ce droit-là qui est reconnu par ailleurs à tous les autres Canadiens là à l'extérieur du Québec. Ce qui a amené les parlementaires à travailler très rapidement pour apporter un amendement, une modification à la loi québécoise qui permet dorénavant cette entente-là de renonciation.
Donc,
alors, c'est quand même une grande avancée là, là-dessus.
Absolument. Et donc, juste pour bien comprendre, donc, je m'appelle Roger Simon. Je demande l'aide médicale à mourir. On me dit, oui, M. Simon, vous correspondez à tous les critères. Vous, on vous demande de vous donner votre consentement une première fois, un consentement libre et éclairé, signé ici en bas de la page. Arrive le jour où on va administrer l'aide médicale à mourir. En temps normal, on aurait demandé une deuxième fois à M. Simon son consentement. Là, M. Simon n'aura pas besoin de le donner le consentement. Est-ce qu'il n'y a pas, et je me fais l'avocat du diable, hein, Dr. No, est-ce qu'il n'y a pas, par contre, un danger? C'est-à-dire qu'entre le moment où M. Simon signe sa lettre de consentement, son état se détériore, il n'est plus à même. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un 0,01% de possibilité que si on avait en effet demandé une deuxième fois le consentement libre et éclairé à M. Simon, qu'il ne l'aurait pas donné?
Ce que vous mentionnez, en fait, la possibilité, c'est 0%. Là,
ah, d'accord.
Là. C'est l'expérience qu'on a dans depuis le tout début. Là,
mais je devais poser la question.
Là. Oui, ben absolument. Et c'est important d'ailleurs de bien expliquer, c'est que au moment où on fait une demande d'aide médicale à mourir, évidemment, il faut être parfaitement apte à consentir, à voir toute sa tête. À partir du moment où vous avez été jugé admissible à l'aide médicale à mourir et qu'il y a un moment, une date qui a été fixée pour recevoir l'aide médicale à mourir, c'est seulement à partir de ce moment-là où, comme médecin, on peut proposer cette entente-là au malade. Il n'est pas obligé de l'accepter. Mais je vous dirais que c'est un grand soulagement maintenant pour les malades d'avoir cette possibilité-là. Mais ça reste une option. Et on s'entend que c'est en général des courtes périodes de temps aussi, là, parce qu'une fois qu'on a fixé la date de l'aide médicale à mourir, en général, c'est pas des semaines ou des mois plus tard. Là.
Bien sûr, ben, c'est ça l'idée, parce que sinon la personne va mourir de sa belle mort. Ben oui, c'est ça.
Oui, puis sinon, ben, ce serait de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, c'est-à-dire demander à l'avance l'aide médicale à mourir. Mais ça, c'est un autre sujet qui se discute actuellement là, par la commission spéciale qui a été mise en place.
Oui.
Mais les chances que les malades changent d'idée, c'est 0%. Mais il est prévu aussi dans la loi que c'est au moment de l'administration, même si le malade a signé une entente, s'il manifeste clairement par des paroles ou des gestes qu'il ne veut plus recevoir l'aide médicale à mourir, on ne procédera pas à l'aide médicale à mourir à ce moment-là. C'est déjà une exigence de la loi.
D'accord, mais ça c'est important, encore une fois, que vous le mentionniez, et c'est pour ça que je vous aime et c'est pour ça que j'aime ça vous parler, parce que on le sait, hein, il y en a des je les appellerais les complotistes de l'aide médicale à mourir, qui voient là un immense danger, comme si il y avait dans les hôpitaux québécois des médecins qui se promenaient avec des petites seringues et qui tuaient des gens contre leur volonté, ou alors des pire encore, des familles très intéressés à avoir l'héritage de grand-maman ou de tante Rita qui exigerait que ma tante Rita se fasse administrer l'aide médicale à mourir pour pouvoir réclamer le pactole. C'est pas de ça qu'on parle. Et c'est ce genre de dérive est absolument impossible au Québec.
Absolument. Et je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas les dérives qu'on voit dans l'aide médicale à mourir. Les dérives qu'on voit, là, clairement, depuis plus de 5 ans dans l'aide médicale à mourir, là, c'est dans l'obstruction délibérée à un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas dans ce qui est administré actuellement, qui est fait de façon extrêmement rigoureuse. Alors, je vous remercie de le mentionner parce que, effectivement, il y a tout un mécanisme en place qui est extrêmement rigoureux. Et vous savez, il y a toute une équipe de soignants qui gravitent autour de ces malades et de leurs proches, là. Il n'y a pas seulement qu'un médecin d'impliqué, là. Il y a toute une équipe de professionnels qui se portent aussi garante de la rigueur du processus. Qui fait que
pouvez-vous nous les nommer? Pouvez-vous nous les nommer? Parce qu'encore une fois, dans notre perspective de aide médicale à mourir 101, là, professeur qui sont ces professionnels qui gravitent justement autour de quelqu'un qui est en fin de vie?
Ben, alors, vous savez, on parle beaucoup évidemment des deux médecins qui sont impliqués, parce que comme vous le savez, il doit y avoir deux avis médicaux qui sont rendus là sur le fait que le malade est admissible, mais il y a aussi toutes les infirmières qui sont au chevet de ces malades. Il y a les travailleurs sociaux qui, la majorité du temps, sont impliqués, les préposés aux bénéficiaires. Vous avez l'équipe soignante, hein, le médecin traitant, les médecins spécialistes qui sont là, parce que ce sont des gens malades, là. Ce sont des gens qui ont déjà des gros dossiers médicaux, et ce sont des gens qui sont au chevet du malade et qui rencontrent les familles, qui les supportent. Alors, il y a toute une équipe de professionnels qui accompagne un malade et ses proches dans une demande d'aide médicale à mourir. Et évidemment, tous ces gens-là observent la situation et se portent garants de la rigueur du processus.
Mm-hmm. C'est très important de mentionner tous ces professionnels-là. Écoutez, dans ce cas-ci, évidemment, quand on parle d'aide médicale à mourir, on ne peut pas s'empêcher de parler de la députée de Joliette, Véronique Yvon, parce qu'on se souvient que c'est elle, pas seule, bien sûr, mais qui a été, disons, la Jeanne d'Arc, là, disons ça comme ça, la Jeanne d'Arc de ce dossier-là. Je veux juste vous lire ce qu'elle a déclaré hier quand la décision donc a été rendue. Elle affirme pour sa part que tout le cœur de la réflexion ayant mené à la loi sur les soins de fin de vie était d'éviter aux personnes des souffrances intolérables. L'amendement permettra que cette volonté soit encore mieux assurée. Vous êtes d'accord avec les propos de Mme Yvon?
Absolument, tout à fait, tout à fait. Et vous savez, il y a de nombreux malades, et j'ai vu la déclaration de Mme Yvon, à qui il faut rendre hommage, évidemment, pour tout le travail qu'elle a fait jusqu'à présent et qu'elle continue de faire. Elle parlait d'une centaine de malades qui avaient vécu des situations d'indignité là, reliées à cette exigence-là de la loi québécoise. À mon estimation, c'est beaucoup plus qu'une centaine de malades. Je vous donne un exemple.
Oui?
Juste au CHU de Québec. Le CHU de Québec a pris la décision, il y a une année d'examiner tous les cas de refus et de non-administration d'aide médicale à mourir, ce qui n'est pas fait encore là, de façon systématique dans la province, malheureusement. Et juste depuis une année, au CHU de Québec, à l'intérieur de notre hôpital seulement, là, il y a 15 malades qui avaient une aide médicale à mourir qui avait été fixée, et au moment de la recevoir, ben, les malades n'ont pas pu le recevoir parce qu'ils n'avaient plus leur aptitude à consentir. Alors, multiplier 15 malades par 5 années, juste au CHU de Québec, par tous les établissements de la province, depuis 5 ans,
c'est certainement plus d'une centaine
de malades qui ont vécu des situations d'indignité là, qu'on voulait éviter avec l'aide médicale à mourir.
Oui. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire simplement des... Enfin, pas simplement, excusez-moi, je retire ce mot-là. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire des gens qui ont subi des souffrances qu'elle n'aurait pas dû souffrir parce qu'elle voulait, ces gens-là voulaient l'aide médicale à mourir. Donc, il y a eu de la souffrance dans nos hôpitaux, dans nos lieux de soins,
absolument,
qu'on aurait pu éviter si cet amendement-là avait été fait plus tôt. C'est triste de se dire que le législateur, dès le départ, peut-être aurait dû justement ne pas avoir cette requête pour un deuxième consentement. Oui. Non, ça aurait été beaucoup plus simple.
Ben, écoutez, je pense qu'on était en terrain inconnu hein, en 2014. Oui. Là, vous vous rappelez qu'on a commencé, il y a eu la commission Mourir dans la dignité qui a commencé oui. ses travaux en 2009, qui a amené à l'adoption de la loi en 2014. On était en terrain inconnu. On a voulu mettre des mesures de sauvegarde. Mm-hmm. On a voulu s'assurer que c'était bien la décision du malade lui-même, qu'il la prenait de façon libre et éclairée. Alors, je pense qu'au moment où ça a été fait, ça a été adopté, c'était fait pour des bonnes raisons et c'était mm-hmm. fait correctement. C'est juste qu'il y avait un effet pervers qu'on n'avait pas soupçonné qui est rapidement apparu.
Oui, et aussi, il faut le dire, puis ça, Véronique Yvon l'a dit régulièrement, c'était le mieux qu'on pouvait obtenir à l'époque. Donc, il fallait, si, parce qu'il y avait aussi de l'opposition, il y avait, tu sais, au moment justement où il y avait la commission Mourir dans la dignité, oui. il y avait des gens qui s'opposaient à ce projet-là. Donc, il fallait aussi faire plaisir à tout le monde d'une certaine façon, parce que vivre en démocratie, c'est parfois faire des compromis. Donc, c'est pour ça que le législateur était arrivé avec cette clause-là. Mais on est très heureux, évidemment, que depuis hier, cette clause-là soit levée. Est-ce que vous avez pu parler à des patients qui ont réagi à cette annonce-là?
Ah ben écoutez, tous les patients que j'ai rencontrés jusqu'à présent étaient très soulagés d'apprendre que cette possibilité-là existait maintenant. J'ai moi-même fait signer quelques ententes de renonciation là, depuis l'adoption de la loi fédérale en mars 2021. Parce qu'il faut comprendre que les médecins québécois, là, dès l'adoption de la loi fédérale, la modification mm-hmm. du code criminel en mars dernier, là, il y a de nombreux médecins dont je fais partie avaient commencé déjà à utiliser ces ententes-là de renonciation.
D'accord.
Parce qu'on ne pouvait plus faire fermer les yeux là, comme médecin, détourner le regard là, sur ces situations-là épouvantables que nos malades vivaient. Et le code criminel le permettait dorénavant. Le Collège des médecins du Québec avait envoyé un message à tous ces médecins pour dire, au nom du patient et dans l'intérêt du malade, si vous suivez la loi québécoise ou la loi fédérale, nous nous engageons à ne pas entreprendre de procédure disciplinaire à votre égard.
Wow! Je ne savais pas. Ben, vous me l'apprenez. Bon, ben c'est bon. Alors écoutez, l'important, c'est de soulager les souffrances et qu'il y ait le moins Absolument. D'indignité possible dans nos hôpitaux auprès surtout de nos grands malades. Docteur Alain Nau, vous êtes médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Merci pour tout le travail que vous faites auprès de ces gens qui sont dans des grandes souffrances. C'est très apprécié. Puis merci de votre travail de pédagogue aussi auprès de nos auditeurs. C'est très apprécié.
Merci, Madame Durocher.
Ben voilà, c'est la fin de l'émission. Déjà, mon Dieu, que ça passe vite et que ça a passé vite cette semaine-là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, Jérémy Savard et Florence Lamoureux et Maude Boutet et Luc Fortin, tout ce monde-là qui travaille de près ou de loin à la recherche pour l'émission. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices. Et on se retrouve lundi. J'espère que vous allez passer une super belle fin de semaine.
Cube Radio.